La souveraineté, l'exaltation, les honneurs, la célébration, l'exaltation, la magnificence, tu as été trouvé digne. Et le ciel a reconnu ta dignité. Les chérubins et les séraphins ont reconnu qu'un seul a été trouvé digne. Tu es cet agneau qui a été immolé, qui a porté nos fautes. Tu t'es fait pécher, toi qui étais juste. Tu as été immolé. Tu as été sacrifié. Pour mon rachat. Pour me sauver. Seigneur Jésus. Les mots ne seront pas assez forts pour réellement exprimer notre reconnaissance en rapport avec ce que tu as fait pour nous. Tu as tellement fait et tu fais encore et tu verras encore que nous ne pouvons tout simplement qu'avec nos faibles mots exprimer notre reconnaissance selon ce qui est écrit. Celui qui offre à l'Éternel sacrifice de reconnaissance le glorifie. Ce soir, nous avons bien voulu nous joindre ensemble d'une même voix, d'une seule voix. Te dire merci Seigneur, te reconnaître à ta juste valeur, te reconnaître tel que tu es, te reconnaître tel que tu as été révélé à chacun de nous. Pour les uns, tu as été le Dieu qui guérit, pour les autres, tu as été le Dieu qui pourvoit, pour les autres, tu as été le Dieu qui console, pour les autres également, tu as été le Dieu qui fortifie. Chacun de nous ici présents a été, ne fût-ce qu'une seule fois, témoin de ta révélation. Oui, voilà pourquoi c'est avec raison que nous t'élévons ce soir. C'est avec raison que nous t'adorons ce soir. Parce que nous ne prions pas, nous n'adorons pas, nous n'exaltons pas un Dieu mort, mais un Dieu bel et bien vivant. Oui, Seigneur, tu es vivant. Et nous n'avons pas besoin, Seigneur Dieu, de beaucoup de choses. Mais nous sommes conscients d'une seule évidence. Tu es celui que tu prétendais être. Tu es le Messie Sauveur, le Roi éternel, le Dieu vivant, l'auteur de notre salut et le consommateur de notre foi. Tu es l'époux et nous sommes ton épouse. Tu es la tête du corps. Qu'est-ce que nous pouvons te donner de plus? Tu es notre abri dans les temps de tempête. Tu es notre forteresse lorsque nous sommes assaillis par l'ennemi de toutes parts. Tu es celui qui relève notre tête. Dans les temps de tristesse, tu es celui qui nous donne la joie. Dans les troubles, c'est toi qui nous donne la paix. Oui, tu es celui que notre cœur a longtemps cherché quand nous étions dans le monde. Et nous sommes heureux ce soir de pouvoir être en toi, Seigneur, et de t'avoir trouvé. Ta parole est claire que nous sommes dans le véritable. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour le privilège, puisque nous sommes dans le véritable, dans le Dieu véritable. Mystère pour les païens, mystère pour le monde, mais vérité pour nous qui avons cru. Seigneur, merci pour le mystère de ta présence en nous et tout autour de nous, avec nous et partout où nous sommes. Bénis ces instants, bénis ces moments, reçois l'honneur, la gloire qui te revient. Au nom de Jésus, de sa majesté, notre Rédempteur qui vit éternellement. Nous avons ainsi prié ce soir. Et ensemble, avec tes ambassadeurs, avec tes enfants ici présents, nous voulons tout simplement te dire merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Que Dieu soit loué. Alléluia.
Gloire, gloire, gloire.
Alors, nous ne sommes pas assez nombreux. J'aimerais bien qu'on se rapproche, s'il vous plaît, parce que je vous vois de loin, je vous vois de très loin. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'il faut te reposer. Hein. Si tu es fatigué, que quelqu'un d'autre te remplace. Oh, que Dieu vous bénisse. Il n'y a plus assez de temps. Nous allons commencer à partir de ce soir et dans les prochains soirs une série d'enseignements, de partage, d'édification, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons qui sont des choses que j'appellerais accessoires. Alors qu'il faut chercher le plus important, c'est-à-dire Dieu. Il faut le connaître, il faut avoir une bonne vision de Dieu. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas une bonne vision de Dieu. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes dans notre vie parce que l'image que nous avons de Dieu, elle n'est pas toujours la bonne image. Et nous allons essayer de voir ensemble trois choses importantes sur Dieu, ce que j'ai appelé les trois niveaux de la vision de Dieu. Vous allez vous rendre compte avec moi au travers de partage que Dieu ne voit pas les choses comme nous. C'est déjà bien de savoir que Dieu ne voit pas les choses. Il faut d'abord que nous nous accordions sur une chose, une vérité. Le problème, le bras de fer entre les hommes et Dieu, c'est que les hommes aimeraient et voudraient que Dieu puisse faire les choses comme eux. Alors que Dieu, il faut dire que nous nous accordions, Dieu ne peut pas faire les choses comme nous on veut qu'il les fasse. La dimension souveraineté de Dieu, c'est cette dimension qui nous crée des problèmes. Parce que Dieu, nous l'adorons, nous disons que c'est le bon Dieu, c'est le Dieu d'amour. Mais nous ne saisissons pas toujours ce que nous appelons par la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas là le message, mais j'aimerais juste m'appuyer sur cet aspect parce que chaque fois mon esprit revient là-dessus. Je crois qu'il y a eu un soir, j'ai partagé ici, sur le roi Assuérus et la reine Vasti. Et je vous avais dit, pour ceux qui étaient là, que le roi Assuérus était le roi. Et le roi, à cette époque, d'ailleurs, même dans le cadre d'Assuérus, ils avaient ce qu'on appelle un harem de femmes. Et dans cette multitude de femmes, il s'est choisi une reine. Vasti. Et Vasti devait comprendre que si elle était assise, si elle était à côté du roi, si elle était sur le trône, c'est parce qu'elle a été le choix du roi. Dans sa souveraineté, il a plu au roi de la choisir parmi tant d'autres femmes. Donc Vasti devait comprendre que si elle était assise, si elle était reine, ce n'était pas à cause de ses mérites, c'était tout simplement parce que le roi l'avait voulu. Malheureusement, lorsque le roi a décidé un jour que Vasti vienne se présenter devant ses invités, elle a refusé, elle a désobéi. Et j'ai pris les principes dans cette histoire qui s'appliquent à nous. La reine a désobéi l'ordre du roi. Et je vous avais dit à l'époque que la désobéissance, c'est la pire des choses qu'un enfant de Dieu, choisi par le Seigneur, racheté, restauré par Dieu, puisse faire. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on dit même que la désobéissance est coupable comme la sorcellerie. La désobéissance. Quels que soient les caprices du roi, parce qu'effectivement, Assuérus était capricieux. Dans son caprice de roi, il a voulu exposer sa femme. Mais sa femme a dit non. Et c'est ce qui se passe finalement avec nous, avec Dieu. Quelquefois, on a l'impression que Dieu est capricieux. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous fait faire, ou bien il y a des choses que Dieu nous demande, qu'on se dit, mais c'est pas possible, comment tu peux faire des choses comme ça? Parce que nous réfléchissons dans la logique, elle a réfléchi, elle dit, attends, petit, je suis sa femme. Comment il peut m'exposer comme un objet de valeur? Je suis comme sa femme, je suis la reine. Logiquement parlant, sa chair a dû parler pour dire, mais attends un peu, essaye de te respecter quand même. C'est un manque de respect, c'est pas sérieux. Mais le roi avait demandé. Et c'est là le problème entre nous et Dieu. J'ouvre cette parenthèse parce que c'est ça votre problème. Quels que soient les caprices du roi, elle devait obéir. Pourquoi? Parce que le roi est souverain. Vous parlez de souveraineté, vous chantez la souveraineté, vous adorez la souveraineté sans savoir ce que c'est. Le roi est souverain. Et parce que le roi est souverain, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Même pas à vous. Et si nous, on ne comprend pas ça, c'est là où nous sommes toujours en conflit avec Dieu. Parce qu'on veut que Dieu justifie tout ce qu'il nous demande de faire et tout ce qu'il fait. On veut comprendre tout ce que Dieu est en train de faire ou bien tout ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. On n'avance pas avec le Seigneur. Parce qu'on veut tout comprendre. On veut être au contrôle de tout. Dieu est souverain. Dieu n'est pas comme ton voisin ni ta voisine. Il est Dieu. Et si nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu, on va être confronté à plein de problèmes. Vasti avait oublié qu'elle avait été choisie. Vasti avait oublié qu'il était souverain. Elle a dit non. Elle a dit non au roi. Et c'est ça la vie du chrétien. Nous disons souvent non à Dieu. Notre désobéissance. Parce qu'on se dit non, non, ça ne m'arrange pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ah non, non, je n'ai pas envie. Ah non, non, non. Quand le roi donne un ordre, ou bien quand il parle, ça ne dépend pas de tes envies et de tes humeurs. Nous avons lu un passage justement quand le pasteur était ici. Il a dit, Dieu dit que nous chantons, que nous devons le chanter, le louer. Pourquoi? Quel était le but? Nous devons le chanter et le louer pour ce qu'il est. Parce qu'il est un grand Dieu, c'est un grand roi. Point final. Le reste, ce n'est pas son problème. Et c'est vrai, si nous comprenons cette dimension de royauté, de monarchie, devant le roi, quel que soit ton état, tu dois faire sa volonté. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es dans un bras de fer avec le Seigneur. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu veux tout comprendre. Tu veux tout saisir. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Moi, depuis que j'ai compris la souveraineté de Dieu, je ne me plains plus. Parce que je sais qu'il sait ce qu'il fait. J'ai toujours dit à ma femme, Dieu prendra toujours ses responsabilités. Parce que c'est un père. Si vous comprenez ça, vous aurez gagné quelque chose avec Dieu. Donc nous sommes en train de parler de ce Dieu mystérieux, de ce Dieu souverain, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de lui-même d'abord. Et j'ai dit que nous allons voir les trois niveaux de la vision de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu voit les choses. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7, et Jérémie 23, verset 23. Exode, chapitre 3, verset 7, qu'une personne nous lise la parole de Dieu. Et qu'une autre personne lise Jérémie 23, verset 23. Amen. Amen. Jérémie 23, verset 23. Amen. Les trois niveaux de la vision de Dieu, comment Dieu voit les choses. Dans Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il révèle à Moïse justement qu'il est Dieu. Mais il ne révèle pas à Moïse que le surnaturel, parce que ce que Moïse, qu'est-ce qu'il a vu Moïse? Moïse, lorsque Dieu l'appelle, lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu travaille avec le surnaturel. Donc Moïse est confronté au buisson ardent, un buisson qui ne brûle mais qui ne se consume pas. C'est déjà un phénomène surnaturel. Ensuite, donc, il se rend compte que ce Dieu-là qui est en train de m'appeler, il n'est pas naturel. Déjà, il comprend qu'il y a du surnaturel. Ensuite, il entend une voix. Donc, il comprend que ce Dieu qui est en train de lui, qu'il appelle, donc il parle. Puisqu'il entend une voix. Moïse, Moïse. Et lorsqu'il rentre dans sa présence, ce Dieu lui dit, non, tu ne peux pas rentrer comme ça. Ôte tes sandales. Il se rend compte que ce Dieu-là, qui est dans le surnaturel, qui parle, mais c'est aussi un Dieu saint. Il découvre la sainteté de Dieu. Et après avoir découvert la sainteté de Dieu, à ce moment-là, Dieu lui donne des instructions. Dieu commence à lui expliquer le motif de son appel. Et lorsque Dieu lui parle, là aussi Moïse découvre une autre facette de ce Dieu-là. Il dit, j'ai vu. Oui, je parle, mais je vois également. J'ai vu. Donc, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se produit en Égypte, Moïse, je t'informe que j'ai vu vision. J'ai vu. Mais non, puisque nous sommes en train de parler de vision, de voir comment il voit. Nous pouvons parler de trois niveaux de vision. Il regarde de trois façons principales. Et nous allons essayer de comprendre cela au travers des phénomènes naturels. Parce que vous savez, c'est important de comprendre les vérités spirituelles en nous appuyant sur les phénomènes naturels. Très important. Dans Jérémie 23, verset 23, il dit, « Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin ?» Voilà déjà dans ce passage-là, deux informations qui nous sont communiquées. La première chose, le premier niveau de vision, c'est ce que la science, la médecine nous présente, c'est-à-dire ce que nous appelons l'hypermétropie. Hypermétropie, c'est un trouble visuel. Parce que nous parlons de vision, donc on va parler de la vue. L'hypermétropie est un trouble visuel. Caractérisé par quoi? C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont hypermétropes, elles ne voient pas très bien de près, mais voient mieux de loin. Voilà ce qui caractérise l'hypermétropie. Donc la caractéristique, c'est que la vision, elle est bonne de loin. Il dit, ne suis-je que Dieu que de près, dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Donc déjà, au travers de ce premier niveau de vision, nous comprenons que Dieu, quand il nous regarde, ou bien quand il voit la situation dans laquelle nous nous trouvons, bien sûr, il est Dieu. Mais par rapport à ce premier niveau, nous nous rendons compte que Dieu voit déjà la fin. Il voit déjà la fin. C'est comme si ça donne l'impression qu'il ne connaît pas le présent, ou bien il a ignoré le présent. Non, il n'a pas ignoré. Dieu est un Dieu qui regarde. Et lorsqu'il regarde, il ne se limite pas sur le présent, mais regarde le futur. Et dans le futur, c'est ce qui se passe avec tous les exemples de la Bible. Regardez Joseph. Lorsque Dieu se révèle à Joseph, il ne lui révèle pas le présent. Il ne lui révèle pas la marche dans le présent. Il lui révèle, il lui montre le futur. Vision. Qu'est-ce que je vois, Joseph? Je vois ton élévation. Tu seras élevé au pays de Pharaon. Mais pourtant, dans le présent, il y avait la souffrance, le rejet, le mépris. Vendu. Non. Dieu a caché cela à Joseph. Il a montré le futur. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous cache. Dieu semble être insensible au présent. Mais il ne parle qu'au futur. Il ne te montre que le futur. Tu fais des songes, des visions, tu reçois des prophéties, plein de choses, mais qui parlent du futur. Montre-t'en. Dans le présent, c'est dur pour toi. Dieu ne dit même pas ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non. Tu as l'impression qu'il y a un silence absolu. Ça donne même l'impression qu'il ne connaît pas. Tu dis, d'accord Seigneur, tu veux que j'atteigne ce futur, mais regarde déjà comment ça se passe dans le présent. Hypermétropie, premier niveau. Il voit le futur. Il voit le futur. Savoir que notre Dieu connaît déjà la fin et le lendemain doit te rassurer. Parce que l'homme n'a aucune maîtrise de son lendemain. On se pose des questions sur ce qui va se passer demain, mais lui ne se pose même plus des questions. Pourquoi? Parce qu'il est alpha, oméga. Il connaît déjà la fin. Donc lui ne se pose plus des questions sur ta fin. Il n'est pas surpris et étonné sur ta fin. Il ne se pose plus des questions. Dieu connaît déjà la fin de ton histoire. Dieu savait. C'est pourquoi lorsqu'il vient à Joseph, il lui montre la fin. C'est comme si il ouvrait un livre et le livre en question, il ouvre à la dernière page. Voilà ce qu'il montre, la vision. La dernière page, comme dans les contes de comment vous appelez vos histoires là, de fables de La Fontaine ou bien les contes de princes et de princesses, à la fin. Et ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants. Il te montre la fin. Ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants au moment où tu es bloqué par la stérilité. Au moment où tu es bloqué par les épreuves. Bloqué par les difficultés. Rejeté, méprisé. On va peut-être même t'envoyer en prison. Harcelé de toutes parts. Mais lui te dit, ils vécurent heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Le futur, il connaît la fin et c'est ce qu'il fait avec beaucoup d'entre nous. Il révèle, il montre la fin. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel. Deuxième niveau de vision, c'est la myopie. La myopie caractérisée par bien voir de près et pas bien voir de loin. C'est-à-dire que les personnes qui sont myopes ont des difficultés à voir de loin, mais voient bien de près. Donc ce deuxième niveau-là, c'est le contraire de l'autre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que Dieu est bien, bien au courant de ce qui se passe dans ton présent. Il sait, il s'intéresse. Il s'intéresse à ton présent. Il s'intéresse à ton présent. Il connaît tes difficultés. Il connaît, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il voyait. Déjà, depuis, il avait vu la souffrance. Ce que tu vis aujourd'hui, la bonne nouvelle, il a dit, j'ai vu. Donc, en d'autres termes, cela n'a pas échappé à ma vision. J'ai vu. Dans le secret, dans la solitude, tes pleurs, tes craintes, tes larmes, il dit, j'ai vu et je vois encore. Je vois. Pourquoi? Parce qu'il a toute la connaissance. Omniscient. Il a toute la connaissance. Rien ne lui échappe, même dans le présent. C'est pourquoi je reviens encore sur ce que j'ai dit. Il est Alpha, Oméga. Tout à l'heure, on a parlé de Oméga. Là, nous sommes en train de parler de Alpha. Là, là, le commencement, le présent. Il voit. Aussi parce qu'il s'appelle Emmanuel et Yahvé Shama, le Dieu qui est présent. Il voit, il connaît. Ton présent ne lui échappe pas. Ne pense pas un seul instant que le présent, ce que tu vis aujourd'hui, il est indifférent, il ne voit pas. Il voit. Il voit. Il voit. Il voit. La pauvre, elle était dans le désert, sous le soleil. Elle s'est dit, c'est terminé, mon enfant et moi, on va mourir. Agar. Et pendant qu'elle était dans la souffrance, l'Éternel a vu ça. Elle a envoyé un ange. Il avait vu. Il n'a pas attendu qu'elle meure pour dire, au fait, j'avais entendu un cri dans le désert. Non, il y a eu un cri à l'instant. Dieu a intervenu. Et vous voyez dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Où l'intervention de Dieu vient vraiment au bon moment. Dieu n'a pas attendu que Shadrach, Meshach et Nego soient consumés par les feux de Babylone pour venir faire une résurrection. Il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Ils auraient pu mourir. Et puis après, Dieu les ressuscite. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. On les a jetés. Au même moment qu'ils ont été dans le feu, il était présent, effectivement. Le quatrième homme. Il était là au même moment. Dieu n'a pas attendu que les lions dévorent Daniel, se réjouissent d'avoir eu leur repas du soir, pour après qu'il opère un miracle et que Daniel se reconstitue dans le ventre des lions et qu'il sorte. Il pouvait le faire, il est Dieu. Il n'a pas fait ça. À l'instant T, au moment de l'événement, de la situation, la main de Dieu a intervenu. Ça veut donc dire que même toi aussi, dans n'importe quelle circonstance, situation que tu vis aujourd'hui, à l'instant T, Dieu est à l'œuvre parce qu'il voit. Il n'est pas seulement le Dieu qui regarde les choses de loin, même de près. Voilà ce qu'il dit à Jérémie. Est-ce que vous pensez que je ne suis qu'un Dieu de loin ou bien un Dieu de près? Je suis autant un Dieu de près, aussi un Dieu de loin. Donc, il n'y a rien qui m'échappe. En d'autres termes, rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Et le troisième niveau, le plus important des niveaux, très important, j'aime bien ce niveau-là. Troisième niveau, dans la vision, dans la manière dont Dieu voit les choses, c'est ce que nous appelons le daltonisme. Le daltonisme est un trouble visuel. Et le daltonisme est caractérisé par la confusion des couleurs, notamment le rouge et le vert. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de ce mal visuel, elles confondent. Nous allons parler des principes ici. Elles confondent couleurs. C'est-à-dire que au moment où tout le monde voit rouge, elle voit vert. Ça veut dire beaucoup de choses. Au moment où tout le monde condamne, au moment où tout le monde dit que c'est fini, c'est terminé, Dieu dit, ça commence. Parce qu'il y a une confusion, le rouge et le vert. Au moment où tout le monde s'accorde pour dire que c'est du rouge là, elle dit non, c'est vert. Voilà Dieu. Il a dit, Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc, au moment où on dit que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, on a arrêté une décision, Dieu dit, je n'ai pas encore dit mon mot. Au moment où la société, les hommes de ta famille voient en toi qu'il n'y a plus rien de bon, tu ne vaux plus rien, Dieu dit que mon meilleur est investi dans la vie de ce frère et de cette soeur. Au moment où les gens ne voient rien de bon en toi, Dieu dit, il y a des bonnes choses en toi. Parce que toi, tu ne connais pas la véritable valeur que tu incarnes. Donc Dieu, il ne voit pas comme nous voyons. Il ne panique pas comme nous. Il n'apprécie pas les choses. Il ne juge pas les choses comme nous. Non, c'est faux. C'est pourquoi finalement, ça doit nous donner de l'espérance de savoir que au moment où c'est terminé, lui dit, ce n'est pas encore terminé. Donc quand tu découvres ça de Dieu, que Dieu aussi a cette capacité-là, que Dieu aussi il fonctionne de cette manière, tu as toujours l'espérance. Tu as toujours l'espérance parce que tu te dis que c'est comme on dit, un match de football, ça se joue en 90 minutes. N'est-ce pas? Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de finale, il y a encore de l'espoir. C'est ce que ça veut dire. Et donc, si Dieu n'a pas parlé là, tu peux encore espérer. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent dire, les hommes peuvent arrêter des décisions. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pris l'exemple de ma femme et mon fils. Quand la médecine a dit pour ma femme que cette grossesse-là, oh, elle est vouée à l'échec, c'est fini. Le médecin a dit non, le fibrome est tellement gros, ça va empêcher le fœtus de se développer, l'enfant, il faut seulement faire un avortement. Mais le Seigneur a donné une parole. Il a dit heureux. D'abord le titre de ce psaume, c'était Dieu bénit le foyer de qui le craint. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. J'ai reçu cette parole de Dieu. Et je savais que ma femme va produire. Elle n'est pas une femme qui ne doit pas produire. Je dis que ma femme sera féconde. Et je verrai mes fils. On était embêtés parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on va avorter ou pas? Si on avorte là, notre conscience chrétienne, ça va être des problèmes. On a dit, on ne va pas le faire. On allait voir le médecin, l'autre médecin. Et l'autre médecin a dit, cet enfant, cette grossesse a 50% de chance d'aboutir. C'était ça le langage de Dieu. L'autre médecin avait dit, rien à faire, avortement. L'autre, il dit, il y a 50% de chance et laisser la nature faire son travail. J'ai dit, voilà, c'est Dieu qui prendra le relais. Et quand Peter est né, l'autre médecin n'en revenait pas, dit, waouh, un rescapé. C'est pas un rescapé, c'est un gracier de l'Éternel. Cet enfant ne devait pas arriver parce que la médecine avait dit qu'il fallait faire un avortement. Parce que ma femme avait un fibrome. Voilà pourquoi elle a couché par césarienne. Mais Dieu était au contrôle. Là où les hommes condamnent, Dieu ne condamne pas. Là où les hommes rejettent, méprisent et jugent, vous ne savez pas ce que Dieu l'a dit. C'est pourquoi je vous ai toujours parlé de ce que nous appelons le mystère du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite, déclare l'Écriture, des semences de la terre. Et parce qu'elle est petite, elle est méprisée à cause de sa taille. Elle est méprisée à cause de sa forme. Mais la Bible déclare que le grain de sénévé étant la plus petite des semences. La Bible dit la plus petite, donc c'est un superlatif. La plus petite. C'est même pas là. La Bible ne dit pas que c'est une petite. La Bible dit la plus petite, superlatif. Mais la Bible dit que ce grain de sénévé devant les autres semences certainement devaient être méprisées. Mais la Bible dit que le grain de sénevé a une destinée. Et la destinée de ce grain qui, au départ, regarde les hommes petits, insignifiants, il dit que ce grain-là, il est destiné à devenir pas une fleur, pas une plante, pas de l'herbe, mais un arbre géant. Ça veut donc dire que ce grain, bien qu'étant petit au départ, jugé à cause de sa forme, de ses caractéristiques de départ, Dieu voyait déjà dans ce grain ce que les autres ne voyaient pas. Les autres peut-être ont dit que bon, ce grain-là, ça sera certainement de l'herbe. Ce grain-là, peut-être, ça sera une petite fleur. Ce grain-là, peut-être, ça sera une petite plante. Dieu ne voyait pas ce que les hommes pouvaient penser. Mais lorsque Dieu voyait le petit grain, il voyait un arbre géant. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Le grain de sénevé était destiné à devenir un grand arbre. Mais qui pouvait croire que ce petit grain serait un grand arbre? Qui pouvait le croire? Qui pouvait l'imaginer? Personne, sinon que Dieu seul. Donc laissons Dieu travailler dans nos vies, s'il vous plaît. Que personne ne te méprise à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais et à cause de ce que tu as. Dieu sait ce qu'il a planté en toi et ce que tu dois devenir demain. Amen. Le troisième niveau de vision, c'est ça. Dieu regarde là où les hommes ne regardent plus. Dieu considère là où les hommes ne considèrent plus. Dieu s'intéresse là où les hommes ne s'intéressent plus. Dieu apprécie là où le monde n'apprécie plus. Pourquoi? Parce que sa manière de voir les choses est complètement à l'opposé de ce qui est logique et naturel. Et si tu comprends que c'est de ce Dieu-là dont il est question, c'est là que tu peux t'exclamer pour dire oui, ma vie est un mystère. Ma vie est un mystère et le monde ne fait que me découvrir. Chaque jour qui passe, on ne fait que me découvrir parce que ma vie est un mystère. Et j'aimerais vous le dire avec beaucoup de sérieux, vous êtes des mystères. C'est-à-dire que même ton voisin là, il ne sait même pas ton lendemain. Il ne connaît pas. Tu le regardes là, mais tu ne le connais pas. Tu le méprises peut-être, mais tu ne le connais pas. Je te dis la vérité, tu ne connais pas son lendemain. Dieu voit ton futur, voit ton présent, et Dieu ne juge pas, n'apprécie pas, ne considère pas comme le monde juge, apprécie et considère les choses. Dieu voit toujours autre chose. Ce qui fait que, même si tu peux le dire, on va dire, mais elle est prétentieuse, il est prétentieux. Pourquoi? Parce que le monde nous a classifiés à cause de nos mérites, à cause de notre condition sociale, à cause de nos diplômes, de nos avoirs, de nos possessions. Le monde nous a classifiés. Mais qu'est-ce que Dieu y dit? Le monde nous a classifiés à cause de notre apparence extérieure. Le monde nous a classifiés à cause de notre façon de nous habiller. Le monde nous a classifiés à cause de notre façon de parler. Ah, il parle bien. Ah, il s'exprime bien. Le monde nous a classifiés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça la grande question. Le monde classifie. Mais Dieu, ça se passe comment? Et si tu ne fais pas attention que le Dieu que tu pries, il peut prendre quelqu'un de la poussière. Je dis bien de la poussière. Tu es moins que rien, comme il a fait avec Jephthé. Pour te faire asseoir avec des grands, pour te donner de l'honneur et de la valeur. Si tu n'arrives pas à comprendre cette dimension de Dieu, tu vas continuer à te désapprécier et accepter ta médiocrité et accepter que tout le monde marche sur toi. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que vous êtes la terre. La terre, tout le monde marche dessus. Nous sommes le sel parce que le sel, lui, l'influence. Il change son environnement. Et tout cela nous vient de notre Père. Donc, sa vision n'est pas la même que la nôtre. Pas la même que celle du monde. Donc, il faut arrêter de voir les choses à la manière humaine. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Mais nous allons apprendre tout simplement à regarder comme Dieu regarde. Il faut apprendre à regarder comme lui. Comprendre qui il est. C'est pourquoi j'aime bien Élisée. Il était serein sur la montagne, il était très détendu, oh, cet homme. L'armée de Syrie était venue sur la montagne chercher l'homme de Dieu pour l'arrêter. L'homme de Dieu était serein, détendu sur la montagne. Et son serviteur Géasi, il est sorti, il a regardé la montagne, il a vu les chars, il dit, oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais Élisée était très détendu. Géasi avait peur. Géasi a regardé. Vous savez, ce que nous regardons, ça nous renvoie de l'information. Ça agit sur nos émotions. Ça peut susciter la crainte, la peur. On est agité. Géasi a vu, humainement parlant. Il a commencé à paniquer. Mais Élisée était détendu. Pourquoi? Parce que Élisée voyait ce que Géasi ne voyait pas. Élisée savait ce que Géasi ne savait pas. Et même quand il va élever la prière au Seigneur, il ne va pas le faire pour lui-même, il le fait pour Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Parce que lui, apparemment, il n'a rien compris. Ouvre les yeux. C'est pourquoi, dans le différent type de service, justement, puisque nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, nous devons savoir que il y a deux catégories de serviteurs. Et chacun de vous devrait se positionner. Quel type de serviteur je suis? Un Élisée ou un Géasi? Géasi était, pourtant a eu le mérite d'être le serviteur de celui qui avait la double portion de l'esprit d'Élie. Théoriquement, Géasi, après Élisée, on devait parler de lui, n'est-ce pas? Théoriquement, Géasi devait recevoir le manteau. Non. Pourquoi? Géasi était à côté de l'homme de Dieu, dans le bon environnement. On peut dire dans la bonne église aussi, pourquoi pas? Dieu parlait, Dieu se révélait. Dieu agissait, Dieu se manifestait. Mais malgré tout cela, ça n'a pas aidé Géasi à être un homme qui pouvait bien comprendre ce Dieu-là comme son maître Élisée. La dimension d'Élisée, il n'a pas réussi à l'atteindre. Est-ce qu'il priait Dieu, Seigneur, je vais être comme mon maître Élisée, ou bien il priait pour autre chose? Géasi, quand vous lisez l'histoire, Géasi, c'était le serviteur qui, lui, c'était le serviteur qui aimait les honneurs, qui aimait les présents, cupidité. Sa seule grâce, c'était d'être avec l'homme de Dieu. D'être là avec Élisée, de l'accompagner, de savoir que je suis le serviteur d'Élisée. Savoir que je suis de la bonne église. Nous écoutons le bon message, nous avons un bon pasteur. Oh, on est heureux d'être là, pas pour véritablement avoir un impact spirituel, mais à cause du prestige que cela peut nous donner. Nous sommes dans une bonne église. Oh, notre église, elle est vraiment bien moderne. Oh, vraiment. On vient là. Bien vestonné, pas pour les choses spirituelles, mais à cause du confort, à cause des avantages. C'est ça les Géasi. Oui, nous étions au Maroc, maison du salut, vraiment on avait une salle. Oh là là, notre église là, on faisait des programmes, on avait reçu plein de gens. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est resté? Est-ce que c'est le manteau ou autre chose? Oui, mais ta vie, on voit ta vie, aucune transformation, aucun changement. On ne retrouve même pas ton pasteur en toi. Mais quand même, tu dis, j'étais dans cette église avec cet homme de Dieu. Oh, ça fait des années, on était ensemble. Géasi. Et son histoire s'est arrêtée. Élisée. Non. Bien qu'il était à côté du prophète qu'on appelait le prophète de feu. Élisée voulait une chose. Ce qui était important pour Élisée, ce n'était pas le fait qu'il marche avec Élie. Lui cherchait la chose spirituelle qui était chez Élie. Lui voulait la chose spirituelle. Il voulait être changé. Il voulait que sa vie soit impactée. Il voulait changer son environnement. Il avait assisté comment Élie avait travaillé. Il dit non, moi après cet homme, il faut que je fasse plus. Il a été marqué par le spirituel. Et c'est ce qu'il a demandé. L'onction, le manteau. Voilà les serviteurs. Si nous ne faisons pas attention à la fin, il faudra rendre des comptes. Quel type de serviteur vous étiez? Qu'est-ce que nous recherchons? Nous servons Dieu de quelle manière? Mais si on arrive à rentrer et à comprendre la vision de Dieu, alors on va commencer à parler le langage de Dieu. Et vous allez remarquer que Élisée, marqué par le ministère de Élie, il a répété quasiment tout ce que Élie a fait un bon disciple. Un bon disciple. Si on est dans sa présence, on a compris qui est notre Dieu. On a saisi la révélation sur Dieu. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire des choses. Mais on ne peut pas faire effectivement si on n'a rien compris. Parce qu'on a vu, on a compris. Je dois parler. La Bible déclare, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et je comprends ces choses-là. J'ai dit, mais il me dit de ne pas m'agiter, il me dit de ne pas paniquer n'importe quoi. Je dois, tel il est, déclare l'Écriture, tel nous sommes. Alors si lui, il voit les choses de cette manière, moi aussi. De plus en plus chercher à être proche de Dieu, à parler comme Dieu, à manifester les attitudes qu'il attend de nous. C'est là qu'il va y avoir bon, fidèle serviteur. Mais c'est parce qu'on a perdu de vue qui il est. Si Géasi avait compris véritablement l'importance d'Élisée, si Géasi avait véritablement compris qui était Élisée, sa vie aurait été changée. Peut-être qu'aujourd'hui on aurait parlé de l'histoire de la triple ou quadruple portion de l'onction sur un homme qu'on appelle Géasi. Mais le manteau, mes amis, le manteau a été enterré. Le manteau était dans la tombe. Ce qui fait que même dans la tombe, puisqu'il n'y avait pas de successeur, il a continué à faire le miracle même étant enterré. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait porter le manteau. Il est parti avec son onction dans la tombe. Élisée. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont dit Amen, parce que dans la Bible, quand Élisée était mort, on a jeté un soldat dans la tombe d'Élisée et l'onction qui était là a ressuscité le soldat. Le manteau est resté. Géasi a échoué et son histoire s'est arrêtée là. Que Dieu nous aide à saisir le meilleur de lui-même, à voir les choses comme lui et à agir comme lui. Si on veut que notre vie change, nous cherchons tous l'impact et la transformation. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. C'est bien, ce sont des paroles, ce sont des mots. Mais commençons par regarder vers lui et essayer de comprendre selon la révélation de l'Écriture. Parce que ce que tu vas, tu ne dois pas ignorer, c'est que sur la terre, Dieu teste et éprouve les hommes. On passe des moments merveilleux, des séminaires, on lit la Bible, c'est bien. Mais tout ça, c'est encore le stade de la théorie. Dieu, voilà pourquoi tu vis toutes ces situations dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris que Dieu, pour te transformer, il va utiliser les éléments de la terre, les situations de la terre, les circonstances de la terre. Toi, tu aspires à la transformation, tu aspires à l'impact, tu aspires à voir sa gloire. Mais comment il va faire? C'est sur la terre. C'est sur la terre qu'il va te travailler. Il va te transformer sur la terre. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans ta vie a un but divin, c'est de te transformer. Parce que ce que nous sommes, dit la Bible, nous n'avons pas encore été manifestés. Il y a encore un travail. Voilà quand l'apôtre Paul peut dire que les enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a encore un travail à faire. Et le travail ne se fait pas au ciel. Dieu travaille sur la terre. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ou bien dans d'autres versions, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Donc, c'est sur la terre. On peut passer toutes les conférences, tous les séminaires. C'est bien, on a reçu. Maintenant, préparons-nous sur la terre à passer au crible avec Dieu. Préparons-nous sur la terre à passer les tests, les épreuves. Si tu répètes, je dis à une personne que Dieu nous éprouve, et quand tu échoues à une épreuve, Dieu te la fait repasser. Mais il utilise des circonstances différentes, mais le fond reste le même. Parce que c'est que là tu as échoué. Si tu veux avancer, tu veux décoller, atteindre une nouvelle dimension, il faut réussir l'épreuve. C'est pourquoi tu n'as pas compris pourquoi c'est presque tout le temps les mêmes choses qui reviennent dans ta vie. Ça revient dans ta vie parce que tu as toujours échoué et tu n'as pas compris que Dieu faisait un travail dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu vas réussir l'épreuve, que tu vas passer à un autre niveau. Ça sera d'autres attaques, ça sera d'autres persécutions, ça sera d'autres oppressions. Pourquoi? Parce que tu atteins un autre niveau. Mais si tu refais les mêmes choses, tu vis les mêmes choses, ça veut dire que quelque part, tu as échoué. Le test de Dieu, Dieu t'a éprouvé. Et l'épreuve, c'est ce que nous appelons, même naturellement parlant, c'est la vérification des connaissances acquises. Vous dites que vous avez reçu la connaissance. Vous avez appris à l'école la leçon. Très bien, on va vérifier cela. On passe par l'épreuve. Mais c'est ça avec Dieu. Nous recevons beaucoup. Nous méditons. Nous lisons. Nous recevons des messages, des prédications. On s'exhorte. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire sur la terre, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier les connaissances. Est-ce que la parole a été faite chère? Est-ce que la parole a été faite chère? Est-ce qu'ils vivent la parole? Parce que le but, ce n'est pas d'avoir de la connaissance. Le but, c'est de vivre la parole. Et si nous ne comprenons pas ça, mes amis, on va toujours tourner là. Tourner, tourner, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On va tourner, tourner et tourner. Dieu dit, tu as échoué. Tu es un homme de théorie, mais sur le plan pratique, regarde les attitudes que tu manifestes. Regarde le langage que tu as. Tu échoues tout le temps. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne fais que tourner, tourner. Parce que tu n'as pas compris que Dieu travaille l'homme sur la terre. Il te brise sur la terre. Ton changement et ta transformation se feront sur la terre dans les circonstances, les situations que Dieu lui-même va permettre. Et n'essaie même pas un seul instant de commencer à te plaindre. Lorsque Dieu commence à te tester, t'éprouver, il a dit dans Job, qui obscurcit mes desseins? Job a essayé de parler. Vous dites, mais qu'est-ce que pas, je ne comprends pas. Dieu dit, qui obscurcit mes desseins? En d'autres termes, tu n'as pas à t'opposer à ce que moi, Dieu, je suis en train de faire. Indirectement, il est en train de révéler à Job que c'est moi qui suis à l'origine de ce qui se passe dans ta vie. Mais je cherche quelque chose. Et certainement, je parlerai de Job. J'ai reçu une révélation sur Job. Prochainement. Mais ce soir, je veux que l'on comprenne d'abord qui est Dieu. Que le Dieu que nous prions est mystérieux. Il ne regarde pas, il ne juge pas comme nous. Quand j'aurai la bonne image de Dieu, cela va affecter mon attitude. Je vais bien me comporter. Parce que le problème, c'est sur la terre. Vous savez, notre grand problème, c'est sur la terre. C'est la mise en pratique. Le grand problème, ce n'est pas de recevoir encore la connaissance. Parce qu'en réalité, ce que les hommes de Dieu nous disent, c'est des choses que nous connaissons, mais ils le disent autrement. Avec d'autres mots, d'autres expressions, d'autres illustrations. Mais le fond, nous avons déjà lu cela. Le fond, nous connaissons déjà. Le problème, c'est la mise en application. On va multiplier les séminaires. Ils vont vous dire rien d'extraordinaire. Ils vont vous dire des choses que vous connaissiez. Ils vont peut-être ouvrir un peu les regards, mais c'est des choses que vous saviez. C'est là que ça se passe. Nous voulons que quelque chose change. Commençons à marcher comme il veut qu'on marche. Mais en ne déconsidérant pas sa personne divine. Il est Dieu. Il est souverain. Soyons rassurés que Dieu ne nous abandonne pas. Soyons rassurés que la Bible déclare qu'il tient le monde entier entre ses mains. S'il tient le monde entier entre ses mains, ce n'est pas ta petite vie que Dieu ne tiendra pas entre ses mains. Si le nombre de tes cheveux, il les connaît, le nombre, ce n'est pas ta petite vie, tes circonstances, tes situations qui vont échapper à un Dieu si grand. Ce n'est pas possible. Il est tellement grand que nous voulons le limiter par nos problèmes et par nos difficultés. Ça veut dire quoi? Il est tellement grand. Quelquefois, nous lisons la Bible, mais on ne se rend même pas compte de ça. Est-ce que vous imaginez le monde est entre ses mains? On est entre ses mains. Si le monde est entre ses mains, mais et toi? Ta taille et puis la taille de la terre. Même toi-même, on ne peut même pas te mesurer. Il y a certains arbres là, tu ne peux même pas faire la taille d'un arbre. Mais si un élément de ce monde là, tu n'arrives même pas à atteindre sa hauteur, ce n'est pas celui qui tient le monde qui est Dieu. Comment? C'est pourquoi je veux que votre vision change sur Dieu. Vous voyez Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur. Quand vous avez la bonne image de Dieu, vous aurez la bonne attitude par rapport à vos circonstances, vos situations de la vie. Mais si vous avez la mauvaise image de Dieu, si vous avez un Dieu circonstanciel, si vous avez une image d'un Dieu qui de temps en temps peut venir, si vous avez l'image d'un Dieu qui de temps en temps est au courant de votre situation, ça va affecter votre vie. Mais si vous avez une image globale, que de près, de loin, quels que soient les jugements, les décisions des hommes, mon Dieu est au courant de tout. Il est au contrôle de tout. Il sait tout. Il fait tout. Il est capable de tout. Quand tu as cette image de sa majesté, il y a quelque chose qui change automatiquement. Je dis, il y a quelque chose qui change. C'est parce que l'image que tu as de Dieu, elle est déformée. Il y en a qui ont cru que Dieu, c'était seulement le Dieu de loin. Ils ont oublié le présent. Il y en a qui ont cru que Dieu, c'est seulement le Dieu du présent et qu'il n'y avait pas d'avenir. Et il y en a qui ont cru que lorsqu'une décision humaine était arrêtée sur la terre, c'était aussi terminé pour eux. Alors qu'ils oublient que Dieu peut changer les décisions des rois sur la terre. Parce que tout simplement, nous avions une image déformée de Dieu. Et moi, mon rôle, ma responsabilité, c'est qu'ensemble, nous puissions avoir la bonne image de notre Dieu. Quand nous aurons tous compris qui il est, alors, et le service et tout ce qui va avec, ça va découler de soi-même. Mais si on a une image très déformée de Dieu, je vous avais toujours dit, et je le répète, ma femme, pendant des années, cette année de sa vie, elle avait une image déformée de Dieu. Elle n'avait pas la bonne image. Ça, c'est ma femme. À combien fois de raisons beaucoup d'entre nous ce soir. C'est pourquoi mon combat, c'est que nous puissions avoir la bonne image. Mais comment on va retrouver l'image de Dieu dans le livre? Accepter la révélation. Notamment dans le livre des origines. C'est là que vous voyez comment Dieu se déploie. Il se révèle dans toute sa splendeur. Dans Genèse, vous le voyez à l'œuvre. Vous le voyez, comment il se manifeste. Alors, c'est important. On va s'épargner beaucoup de peine si on a la bonne image. Dieu m'a fait passer du stade de la théorie à la pratique. Il y a des choses que je suis en train de dire, que je partage, qui sont un vécu. Je vais terminer. J'avais dit à ma femme que l'année 2008, je sens quelque chose, je sens un mouvement divin, je sens quelque chose de Dieu, je sens un suspense, je sens comme quelque chose qui est suspendu sur notre vie, qui est prêt à être relâché, mais je ne sais pas, mais je sens quelque chose, je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire, mais je sens qu'il y a quelque chose sur notre couple, je sens que c'est une année de grâce et de faveur qui va commencer. Je dis ça à ma femme. Et au moment où je vous parle, je vis la grâce de Dieu tous les jours. J'ai dit à ma femme que depuis que tu es parti, je ne manque de rien. La seule chose qui me manque, c'est toi et les enfants. Dieu s'occupe de moi tous les jours. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, ma femme, elle a eu ses papiers. Elle va bientôt revenir avec les enfants. Les enfants commencent l'école. Tout le monde dans sa famille avait eu les papiers. Elle était la dernière personne qui restait. Ses soeurs, ses frères, parce que sa maman est mariée à un Français. Sa maman est française. Je dis, ma femme, elle a les papiers. Les enfants sont à l'école. Je dis, c'est vrai, 2008 est une année de faveur et de grâce divine. Je lui disais toujours à ma femme, Dieu est au contrôle. Et voilà ce que je vis. Donc quand je vous parle de ce Dieu-là, je ne vous parle pas de... Je vous parle de quelque chose que j'ai compris. J'ai arrêté de le regarder petit. J'ai arrêté de me lamenter, de pleurnicher sur ma situation. J'ai appris à le remettre ses responsabilités en disant, Dieu n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et je vois la fidélité de Dieu tous les jours. Tous les jours. Il n'y a aucun jour qui passe, je vous dis la vérité, qu'il n'y a aucun jour qui passe sans que je voie cette bonté de Dieu. Je suis très sérieux. C'est pourquoi j'encourage l'Église et les frères que vous êtes de ne jamais vous désespérer. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais il y a des autres, il y a des personnes qui n'ont pas encore compris, ce qui fait que votre ignorance vous crée des problèmes. Et il y en a d'autres qui ont compris et qui vivent le temps de la patience de Dieu. Mais le but, c'est de sortir de l'ignorance. Connaître Dieu. Ce soir, tu as compris une partie. Mais le problème, ce n'est pas que cette connaissance que j'ai pu vous donner ce soir. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que vous allez passer par l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve que vous allez savoir est-ce que c'est un Dieu de près ou de loin. C'est dans l'épreuve que vous saurez est-ce que réellement il peut changer les décisions des hommes. C'est dans l'épreuve. Ce n'est pas en priant en langue, en restant fermé, en étant excité, de dire ouais, je sens que Dieu, oui, ça c'est très bien. Mais c'est sur le terrain que tu sauras si réellement ton Dieu peut changer la décision des hommes. Et quand tu verras sur le terrain que ce Dieu est capable de changer la décision des hommes, c'est là que tu pourras comprendre effectivement que c'est vrai, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Je prie le Seigneur qu'il me fasse rencontrer le roi de ce pays. Et lorsque Dieu me fera rencontrer le roi de ce pays, et qu'on me donne la possibilité d'avoir la faveur royale, je dirai Sa Majesté. Il y a 4 églises qui sont reconnues ici au Maroc. Catholique, protestant, anglicane et orthodoxe. On veut s'insérer comme la 5e église reconnue ici. Décret royal. Sa Majesté Mohamed VI. C'est tout ce que nous vous demandons. Et ceux qui vont quitter le Maroc, vous allez entendre seulement. Un décret royal a été signé dans un pays arabe. Parce que la grâce et la faveur de Dieu, c'est quelque chose. Je commence à rêver, dis oui Seigneur, à quand ce jour-là où je vais rencontrer le roi Mohamed VI. Dis oui, j'ai entendu parler. Parce que pour votre information, vous savez que les renseignements généraux me connaissent. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que les renseignements généraux, ils me connaissent? Ils savent que le pasteur Gaël. Je suis rentré au Maroc, ils savent que mon passeport pasteur, hein. C'est pas le passeport étudiant, mon passeport pasteur. Ils savent que j'existe. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Mais apprenons à le regarder vers le Seigneur. On ne veut pas limiter Dieu. Dieu est un Dieu, il m'a démontré que c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que l'on peut penser. C'est ce qui fait en réalité que je m'attache à ce Dieu-là, parce qu'il est tellement, il a tellement été réel dans ma vie. Tellement réel que je ne pourrais pas. Dieu est tellement réel. Tellement réel. Que pour moi, c'est plus que juste lire la Bible. Tellement il est réel. Je ne saurais même pas vous donner les témoignages qui sont si immenses. On m'a posé des problèmes cette semaine d'argent. Moi, j'ai dit à Dieu, tu as vu, Seigneur? Raison de plus pour que tu me bénisses, pour que j'ai de l'argent. J'ai dit ça à Dieu. Le même jour que j'ai dit ça à Dieu, là, Dieu m'a visité. Cette semaine. Hein. Parce qu'on m'a posé des problèmes d'argent. J'ai dit, écoute, les gens me posent des problèmes d'argent, Seigneur, moi je fais comment? J'ai dit, dis, Seigneur, tu vois, tu as des raisons de me bénir financièrement. Je dis, le même jour, Dieu me fait de plus en plus peur dans la façon dont tu fonctionnes avec moi, parce que quand je soupire comme ça, le Seigneur, le ciel est entend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point, je me rends compte que c'est vrai, que quand Dieu t'appelle véritablement à son service, il s'occupe de toi. Si ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire le temps plein, là, travaille. Mais si Dieu t'appelle, il va s'occuper. On va prier le Seigneur. Dieu est réel. Dieu est autant réel que les réalités de ta propre vie. Dieu est autant réel que les difficultés de ta vie. Il est autant réel. Il est autant réel. Je te dis la vérité. Ce sont des réalités, mais au-delà de ces réalités, n'oublie pas qu'il y a une autre réalité. C'est la réalité divine. Tu as un Dieu vivant, réel, qui connaît tout de toi. Il connaît ton histoire, il connaît ton commencement, il connaît ta fin. Il sait là où tu vas finir. Il sait les embûches, les difficultés. Il connaît les personnes qui t'en veulent. Il connaît les personnes qui parlent mal de toi. Il connaît ceux qui souhaitent ta fin. Il sait tout ça. Mais il est au contrôle de tout. Il a dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, il dit, tu la condamneras. L'Éternel est avec toi. Réjouis-toi en espérance et en esprit. Tout simplement, disons, Seigneur, véritablement, j'ai besoin de me réajuster et me conformer à la vérité de ta parole. Je veux que de la lettre morte, je puisse véritablement vivre une réalité tangible, pratique dans ma propre vie. Je veux aussi avoir, effectivement, Seigneur, des sujets de louange vers ton trône de grâce. Te dire, oui, l'Éternel est Dieu. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est merveilleux. Oui, je veux, Seigneur, lorsque tu me feras passer par l'épreuve de ma foi, pour vérifier mes connaissances, que je puisse être ferme, que je ne puisse pas baisser les bras, que je ne puisse pas vivre selon les circonstances, mais que je puisse m'appuyer sur toi et regarder vers toi, Dieu. Aide-nous. Aide mon frère. Aide ma sœur. Tu es véritablement le seul en qui nous pouvons nous appuyer. Seigneur, je ne sais pas ce que chacun ici présent vit, mais j'aimerais te prier ce soir en leur faveur, afin que tu les aides à véritablement voir les choses telles que tu veux qu'ils puissent les voir selon la vision que tu leur donnes. Seigneur, je prie pour ceux qui sentent déjà la faiblesse et le relâchement. Je prie ce soir afin que tu les fortifies au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont attaqués au niveau de leur pensée par l'adversaire. Je prie, Seigneur, pour ta paix. Que ta paix leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et que les forteresses soient renversées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-leur comprendre qu'il y a de l'espérance pour toute âme qui vit. Parce que chaque jour qui passe, tu permets que le souffle de vie leur soit accordé. Père, comme un signe de ta présence, comme un signe de ton approbation, comme un signe de ta miséricorde, comme un signe de ta grâce. Et parce que tu permets, Seigneur Dieu, qu'ils soient comptés parmi les vivants, tu as dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants. Comment un vivant te louera-t-il, Seigneur, si tu n'agis pas en sa faveur? Oui, Seigneur, au-delà du souffle de vie,
Comment racontera-t-il les bienfaits, les merveilles de l'Éternel si tu ne te manifestes pas? Seigneur, ouvre les yeux, illumine leurs yeux afin qu'ils comprennent et fortifie chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié ce soir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.